Nova.
Nova.
Les grandes villes sont favorables à la distraction que nous appelons dérive.
Salut à tous, on part à la dérive avec la performeuse américaine, poétesse et auteure, Lydia Lunch.
La psychogéographie se proposerait l'étude des lois exactes et des effets précis du milieu géographique, agissant directement sur le comportement affectif des individus.
À la dérive avec Lydia Lunch, on rentre dans le vortex avec une bonne sorcière doublée d'une sacrée garce. L'auteur du livre autobiographique Paradoxia, la gouaille radicale de Teenage Jesus and the Jerks, la voix d'outre-tombe de Big Sexy Noise, la camarade de jeu porno-punk de Virginie Despentes, Lydia Lunch, avec plus de 60 ans au compteur, est une survivante du New York de 1976. Elle a toujours vécu comme un animal narcissique et instinctif dans la ville. Elle a tout essayé, la revanche serrée entre les dents. Abusée par son père à l'âge de 6 ans, toute sa vie, toute son œuvre est une psychothérapie à vif. À la dérive, ça commence dans un resto chinois avec un gros poisson amoureux de Lydia et ça finit chez un artiste qui vit au milieu des lapins. Une dérive avec plein de gros mots qui parlent de sexe, de drogue, de violence, de féminisme et de rock'n'roll. Une dérive interdite aux moins de 18 ans.
À la dérive, avec Aurélie Sfez.
Poor, pathetic creatures. With your need for something that does not exist. With that hole in your so-called soul that needs filling. And what do you fill it with but a so-called God? Man was not made in the image of God. God was made in the image of man, so that man had something to blame his infantile rage on.
On va faire un test voix.
Yes, a voice test, that's my
Le voice test.
Voice. Deeper than William Burroughs.
Oui, c'est là que je fais une voix plus profonde encore que celle de William Burroughs. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites les tests voix?
Nothing, it's always
Rien de spécial, c'est toujours parfait.
Stand, I'm very fucking sarcastic.
Comprenez
today.
Bien que je suis ultra sarcastique aujourd'hui. Vous êtes souvent sarcastique, Lydia Lunch.
I am not predictable, no.
Je ne suis pas aussi prévisible. Pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici?
Because the fish is in love with me.
Parce que le poisson est amoureux de moi et qu'avant de mourir, il a besoin d'embrasser mon visage collé contre la paroi de l'aquarium. Parce qu'ils font un super canard laqué et que c'est un endroit cool parce qu'après un concert, on peut venir nombreux. Et à cause de la déco pourpre aussi. Alors pourquoi pas ici?
C'est le gros poisson qu'il y a là-bas dans l'aquarium. C'est un poisson géant.
Moi j'adore les requins. Il ne réalise sûrement pas que je suis un requin et j'aimerais bien manger ce poisson énorme. Mais en attendant, il adore m'embrasser à travers son aquarium. Et en fait, j'ai toujours eu un pouvoir hypnotique sur les animaux, les enfants et les hommes.
Si vous étiez un animal, Lydia Lunch, quel animal?
Je suis un putain d'animal. Un humain. Le meilleur type d'animal. Insatiable, prédatorial.
To what?
Myself and you. But carry on.
Mais continue.
Glad to see you and know
Qu'on fasse connaissance.
Well, because I'm a workaholic, you think I'm gonna
tu as peur de moi parce que je suis une workaholic? Tu penses que je vais te saouler à fond? Parce que je suis une femme agressive, passionnée et réfléchie? Meuf, tu vois du sang sur mes mains? C'est parce que je les ai lavés avant de venir ici. Les gens ont tendance à projeter leur peur sur ma gueule. Aujourd'hui, je suis pas en super forme. Mais si tu me parlais un autre jour, je suis très sympa. Je gagne ma vie en étant agressive, mais généralement, je ne le suis pas pendant mon temps libre. Je suis super gentille, une putain de mère Teresa. J'aime faire des hugs aux gens après les concerts. C'est pas un problème. Ils ont besoin d'un hug, je leur donne un hug.
Un ami à moi m'a dit que vous étiez très maternante.
C'est simplement que jamais un être vivant ne sortira de mes flancs. Pour moi, la maternité, c'est la vulgarité. En revanche, materner les gens, c'est important, vu que ce sont des putains de bébés. Alors si je dois faire des hugs aux gens pour qu'ils se sentent mieux, ça ne me pose pas de problème.
Dans votre livre, dans Paradoxia, à un moment donné, il y a un passage dans le livre où vous faites une grossesse extra-utérine et vous racontez cette grossesse. Et vous dites qu'il faut absolument enlever l'alien qu'il y a dans votre ventre.
Ouais,
j'ai failli en mourir. Et de toute manière, je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Pour moi, c'est un acte de vulgarité et de vanité absolue. Je pense que personne ne devrait avoir d'enfant jusqu'à ce qu'on atteigne un seuil de natalité mondiale nul. La planète est surpeuplée. Ensuite, si quelque chose ne tient pas dans ton corps, pourquoi ça devrait accoucher ? Un bébé a déjà sorti sa tête de ta chatte ? Moi non, et ça ne m'a jamais intéressé. Il y en a eu un dans mon corps et il a essayé de me tuer. Il s'est avorté lui-même et j'ai failli en mourir. J'étais consciente sur une table d'opération et ça a été la douleur physique la plus intense que j'ai ressentie de toute ma vie. Ça m'a appris ce que c'était vraiment la douleur. Je pense toujours que la maternité, ce n'est qu'une vulgarité. C'est vain. Adopter un enfant ou un chien ou un chat. Je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que c'est tellement important qu'ils fassent un enfant. Ça me dépasse. On n'a pas besoin de plus de gens. On a besoin de moins de gens. On a besoin de moins de tout. On a trop de tout. On consomme trop.
Pourquoi vous n'avez pas adopté d'enfant, par exemple ? Vous auriez aimé adopter un enfant ?
J'ai adopté des centaines de musiciens. Ce sont tous des enfants, c'est bien suffisant. Tous les hommes sont des enfants. S'il te plaît, poussin. Encore plus les musiciens, les artistes. Ils deviennent musiciens pour rester éternellement adolescents. Si tu as le rêve d'être musicien, de toute façon, moi je ne suis pas une musicienne. Je suis une hystérienne. Historienne de l'hystérie. Je documente l'hystérie de notre époque à travers différents formats, dont la musique. Avoir le rêve de devenir musicien, c'est super. Et je ne dis pas que les gens ne devraient pas. Mais c'est un rêve qui finit généralement en cauchemar et dans la pauvreté. Donc je n'encourage pas les gens à devenir musiciens. Devenir architecte ou chimiste, on a besoin de meilleurs immeubles, de bonnes drogues, pas de plus de musique. Je ne fais pas de la musique, j'utilise seulement la musique pour amplifier la compréhension des mots. On a besoin de plus de spoken word, pas de plus de musique.
Women should be machines of voluptuousness.
À vos santé.
Merci.
Voluptuous emotion is nothing but a kind of vibration produced in our souls by shocks which the imagination, flamed by the remembrance of a lubricious object, registers upon our senses either through this object's presence or better still by this object's absence or exposure.
C'est la poésie qui nous sauvera.
Specifically, what we need is more women telling stories about their lives.
Ce dont on a particulièrement besoin, c'est de plus de femmes qui écrivent sur leur vie, pas de plus de grosses brutes et d'hommes politiques. Je fais des ateliers pour aider les femmes à écrire et à faire des performances. Je pense que c'est très important. Quand j'ai commencé à faire du spoken word, c'était après les poètes de la Beat Generation. Lenny Bruce, Patti Smith, et avant le slam, et moi, Jello Biafra, Henry Rollins, Exene Cervenka, John Cooper Clark, Jewel, on a tous commencé à faire du spoken word en même temps, à cause de la situation politique. Je n'ai pas arrêté et je continue. Je viens juste de faire ce que j'appelle de l'illustration poétique sur Vienne, avec de la vidéo, de la musique et du spoken word, parce que les problématiques sont d'actualité. J'ai un livre qui sort en juillet, c'est toujours important. La musique l'est moins. Elle est là pour tranquilliser la bête sauvage. Le spoken word montre la sauvagerie du monde.
Vous écrivez de la poésie ? Vous écrivez depuis que vous avez quel âge ? Depuis que vous avez 10 ans, vous écrivez ?
9.
À 9 ans.
Horrible, insulting.
Des poèmes horribles. Injurieux, meurtrier sur mes parents et tous les parents, Dieu le Père, etc. C'est devenu plus sérieux vers 12 ans. Après avoir lu Hubert Selby, Sade, Genet, Henri Miller et Foucault, j'ai commencé à vraiment écrire.
Qu'est-ce que vous écriviez à 12 ans ? Quel genre de choses vous écriviez ? Qu'est-ce que c'était ?
hateful, as I have continued.
Des trucs pleins de haine.
Hateful observations.
Comme encore maintenant.
My first public spoken word was called
Ma première performance publique de spoken word s'intitulait Daddy Dearest, et c'était contre mon père et le fascisme de la structure familiale qui génère tellement de violence dans la plupart des sociétés. Parce que c'est quoi un père, si ce n'est un sale bâtard dans la plupart des cas? Et je suis passé de mon père au père fondateur de mon pays, à Dieu le Père. C'est cette machinerie que j'attaque. On a besoin de perspectives différentes sur ce qui nous entoure, sur les excès du pouvoir. Les femmes ont contrôlé et dirigé le monde avant l'âge de bronze, et quand les hommes ont appris à construire des armes, on a tout perdu. On ne peut pas revenir à notre passé de reine guerrière. Les hommes contrôlent les munitions maintenant. Et je ne suis pas sûre que la solution soit de les annihiler avec leurs propres munitions. Mais on est au-delà de la raison à ce niveau. Et on ne peut pas raisonner avec des maniaques. Donc je ne sais pas ce qu'on devrait faire. De toute façon, cette folie ne m'affecte pas tant que ça personnellement. Je suis affectée jusqu'à 18h et après je me réfugie dans mon cocon. Et je me consacre à ma seule et ultime rébellion et révolution, le plaisir. Je veux quand même expliquer un truc. Je n'ai pas de problème avec les hommes. Je suis même désolée qu'ils soient élevés dans une société de machisme abruti où la guerre et le harcèlement sont tellement prédominants. C'est les hommes en position de pouvoir et qui abusent de ce pouvoir qui me pose problème. D'un point de vue personnel, je préfère même souvent les hommes aux femmes. Enfin, je suis plutôt misanthrope, je déteste la plupart des gens. Je trouve qu'ils sont faibles et stupides parce qu'ils n'ont pas appris à se défendre. Même si en fait, c'est la faute de leurs parents. Mais ça, c'est à un niveau personnel, au niveau politique. Même en France, où les personnes manifestent pour le meilleur comme pour le pire, qu'ils manifestent violemment ou non, comme pour la Seconde Guerre en Irak, des millions de personnes manifestent dans la rue sans que ça affecte ceux qui détiennent le pouvoir. Il y a des milliers de personnes qui manifestent chaque week-end. Peut-être que quelques trucs changeront lentement, mais aux États-Unis, il y a des manifestations tout le temps et absolument rien ne change. Ce qui explique que les individus ont au moins l'obligation d'avoir le contrôle de leur vie. C'est-à-dire qu'ils doivent comprendre leur pouvoir, essayer d'éliminer toute forme d'oppression de leur vie. C'est-à-dire toute forme de négativité et de maltraitance. Je me considère comme la bile de l'Amérique. Je suis obsédée par la nature dégoûtante des politiques américaines. Pas celle d'il y a un ou deux mois, mais celles qui sont les fondements même de ce pays. Les États-Unis ont été construits sur des mensonges, de la merde. C'est pas pour une supposée liberté religieuse, mais pour des fanatiques religieux. C'est pour ça qu'on a massacré des peuples, qu'on a eu 400 ans d'esclavage. L'Amérique est un putain de mensonge.
Il y a une passion et une haine pour l'Amérique, Lydia Lunch.
Passion and hatred, I would say. Because I don't know why.
C'est la passion et la haine qui vont gagner. Je ne vois pas pourquoi je devrais être celle qui se bat contre l'injustice. Je ne suis pas affectée par aucune politique de quelque pays que ce soit. Je suis hors cadre. Je ne vis même plus dans un appartement. Je fais la grève du loyer. J'ai été en grève de loyer la moitié de ma vie. Personne ne sait ce que je fais, personne ne sait ce que je dis, je n'ai jamais été censurée et rien de tout ça ne devrait m'affecter. Je suis juste censée être une musicienne maniaque obsédée par les drogues et le sexe. C'est d'ailleurs ce que je deviens dès qu'il commence à faire nuit.
Où est-ce que vous habitez maintenant, Lydia Lunch? Vous avez quitté l'Amérique ou vous êtes revenue en Amérique? Vous habitez en Espagne, vous habitez où?
Je suis sans maison.
Je
n'ai plus de lieu à moi maintenant. Comme la Beat Generation, Burroughs, Byron Guysin, tous ces gens allaient et venaient. Ils n'étaient pas SDF, mais ils étaient nomades. Il n'y a pas que moi. Je connais trois ou quatre autres femmes artistes qui font pareil. J'ai passé mon temps à bouger d'un endroit à l'autre. J'ai vécu 8 ans à Barcelone. Après ça, je ne savais pas où vivre. Je ne voulais vivre nulle part, en fait. Je voulais juste être sur la route.
C'est une philosophie de nomadisme. Le monsieur arrive avec un canard laqué qui va nous découper devant nous. Mais on voit tout dans ce canard, la tête, les pattes, vous avez tout laissé, hein.
Ouais, carapace. Je vais vous laisser pour vous. Enlever seulement que la peau.
Vous êtes un très bon découpeur de peau.
Ouais.
Donc vous allez revenir avec la chair broyée.
Exactement.
Et là, on va manger la peau.
Voilà.
Alors, on prend ça sur une petite crêpe, on met la sauce, on met la peau. C'est bon ?
Muy bien.
Muy bien. A lunch with Lydia Lunch. Lunch with lunch.
Psychogéographique, relatif à la psychogéographie. Ce qui manifeste l'action directe du milieu géographique sur l'affectivité.
Quel conseil vous donneriez à une femme comme moi ?
Te maquiller davantage. En avoir rien à foutre des autres. Boire beaucoup d'eau. Et ne consommer que les meilleurs alcools et les meilleures drogues. Tu dois t'aimer. C'est la première chose. Personne d'autre ne pourra t'aimer si tu ne t'aimes pas. Et en fait, c'est pour ça que les rockstars, ce que je suis pas, sont attirantes. La plupart des rockstars sont des exhibitionnistes souffrant de complexes d'insécurité. Ils ont l'air attirants parce qu'ils donnent l'impression de s'aimer à la folie. C'est ça qui est beau.
Avec toutes les drogues que vous avez prises là dans le livre, hein, avec tout ce que vous vous êtes envoyé, est-ce que vous vous considérez comme une survivante ?
Tu veux le numéro de mon dealer ? J'en ai pas. Je n'ai pris que les meilleurs au meilleur moment. Je n'ai jamais pris d'héroïne. Beaucoup de mes amis sont allés aux alcooliques anonymes. Je n'ai jamais été accro à la moindre drogue. J'ai commencé à en prendre à 12 ans, mescaline, LSD, acide. Et à l'époque, la qualité était supérieure. Twinal, quinol, séconal, tous ces super trucs. Non que je n'ai pas une personnalité addictive, j'ai une personnalité compulsive. Mais je suis assez changeante. Et je me lasse rapidement d'une drogue. Je finis par la trouver chiante. C'est ce qui m'a sauvée. Un jour, j'ai demandé à un ami, mais pourquoi je n'ai jamais été accro ? Bien que crois-moi, j'adore toujours prendre des drogues. Et j'en prends vraiment quand je veux. Cocaïne, ecstasy, DMT, DBT. Mon ami m'a dit, tu ne te détestes pas. Et je pense que pour beaucoup de personnes qui sombrent dans la drogue, il y a un truc génétique. Il y a le gène de l'alcoolisme. J'ai passé des années sans boire ni prendre de drogue. Je ne fais aucune fixette. Et aussi, il y a plein de drogues qui ne marchent pas avec moi. J'ai essayé de prendre du crack à 5 reprises et je n'arrivais pas à décoller. Donc je pense que je suis moi-même du crack. L'héroïne ne m'a jamais attirée. Je me souviens que tous mes amis héroïnomanes de Londres ou New York trouvaient bizarre que je ne sois pas comme eux. Allez vous faire foutre, bande d'abrutis. C'est pas comme si j'avais un total contrôle des drogues, mais elles ne me contrôlent pas. Et aussi, je les utilise à des fins précises. Je n'ai pas besoin de prendre des pilules au réveil. Les opiacés ne marchent pas sur moi, les antidouleurs non plus. J'ai dû supporter des tas de douleurs sans pouvoir prendre de pilules toute ma vie. Je préfère les choses qui accélèrent le fonctionnement de mon métabolisme ou celles à effet psychédélique.
Vous vous connaissez bien.
J'ai appris à très bien me connaître à travers mes expériences. J'ai pris de la mescaline à 12 ans et des acides à 13 ans. Et c'était super. Et à l'époque, les drogues étaient beaucoup plus clean. De nos jours, il y a beaucoup de drogues de très mauvaise qualité. Et c'est ça qui est vraiment dangereux. Il y a eu tellement de morts dans ma famille. Mon père est mort avant d'atteindre mon âge. Ma mère est morte l'année d'après. Ma mère a fait des fausses couches avant et après ma naissance. J'avais un frère jumeau qui est mort à la naissance. Ma mère avait 11 frères et sœurs, dont seulement 3 sont arrivés à l'âge adulte. Il y a eu plein de cancers dans ma famille, des cancers du cerveau. Survivante ? Je pense que j'ai survécu des milliers de fois. Et je suis têtue, trop têtue pour mourir. Bon, et après avoir parlé de cancer, je vais aller me fumer une putain de cigarette.
Nova.
Nova.
Tumbling some day.
sort, on va voir le poisson. Le poisson dans l'aquarium. Et Lydia fait un gros bisou au gros poisson. Il a un nom ?
Gourami.
C'est quoi ? C'est un gourami ce poisson ?
C'est le poisson, ça vient de Malaisie.
Mais c'est un poisson géant ?
C'est un poisson très vieux.
Mais il est énorme.
Eh oui, ça fait une bonne vingtaine d'années qu'il est là.
Il est moche. Vous allez le manger un jour ?
Certainement pas moi.
Il va finir en brochette.
Je me pose la question si c'était vraiment consommable.
Ah ouais, c'est gros, il y a plein de chair.
Il y a plein de chair, il y a de quoi à manger, oui.
Mais il est hideux.
Ça, je vous dis, je vous ferai pas dire le contraire.
Avec sa grosse bouche.
Mais la seule différence avec les Chinois, c'est que une espèce de poisson a une longue vie, ça veut dire c'est le porte-bonheur.
Donc lui, c'est le porte-bonheur du resto où on est.
Oui, c'est le mascotte de Tao Tao.
Ça, c'est la chair du canard.
Sans air blanc.
Alors, on a mangé la peau du canard, maintenant on mange la chair du canard.
Voilà, c'est la suite. C'est la chair.
Bon appétit. Hein.
Bon appétit, motherfucker.
Nova. À la dérive avec Aurélie Sfez.
Et avec Lydia Lunch, on a quitté le Tao Tao dans le 13e arrondissement pour rejoindre en taxi la librairie Hors Circuit dans le 11e, tenue par son amie Stéphanie. Ici, on ne vend que des DVD rares, des films de genre dans des coffrets qu'on aimerait dévorer. Lydia Lunch a joué dans Mutante de Virginie Despentes, dans le livre de Jérémy d'Asia Argento ou encore dans les films de Richard Kern. Elle envahit tout, travaille beaucoup, écrit vite, s'empare d'une scène, d'une ville, d'un monde qu'elle manipule à sa guise, partout chez elle et vivant nulle part. Ensuite, on a grimpé dans le 18e, dans le terrier de l'artiste Paul Toupet. Il sculpte des enfants lapins qui se multiplient par milliers. À la dérive avec Lydia Lunch et ses amis, ça continue au pays d'une fémie nazie.
Quand on regarde les premières pages...
J'ai fait tout ce que tu aurais aimé faire.
Il y a plein de trucs que j'ai pas envie de faire que vous faites dans votre livre.
Je ne t'en veux pas, mais j'aime chaque seconde de ma vie.
Vous écrivez, j'ai été tellement malmenée par les hommes, un homme, mon père, que je suis devenue comme eux. Tout ce que j'adorais en eux, ils le méprisaient chez moi. Le caractère impitoyable, l'arrogance, l'obstination, la distance et la cruauté, ma nature froide et calculatrice, qui n'entendait que ma propre raison. Inconsciente de ma brutalité et de mon égoïsme à l'égard des autres, j'étais incapable d'assumer les conséquences de mon comportement. J'étais égoïste et égocentrique, sans remords. Un animal mu par l'instinct, marchant à l'intuition, toujours à la recherche de la prochaine proie juteuse, insouciante ou crédule. Vous avez tellement été maltraité par les hommes que vous avez essayé d'être comme eux. Pourquoi devenir comme celui qui vous maltraite ?
Parce que c'est ce qui arrive aux victimes de ce genre d'abus. Il y a deux façons d'y faire face. La plupart des femmes retournent le couteau contre elles-mêmes, le reste retourne le couteau sur les autres. C'est ce que font les hommes en général, et c'est pour ça qu'ils deviennent des serial killers. Jusqu'à ce que vous trouviez une façon de rompre le cycle de la violence, vous dirigez ce couteau d'un côté ou de l'autre. J'ai commencé à agir comme ça à 12 ans. Je me suis rendu compte que ma vie déconnait à 6 ans. Il n'y a que deux choix. En tant qu'enfant ayant traversé un trauma, tu as le choix entre devenir une victime qui se fait mal à elle-même ou devenir une personne qui fait du mal aux autres à travers la prédation. J'ai choisi l'approche dite masculine. Peut-être parce que j'ai pensé avoir tué mon frère jumeau. Peut-être parce que j'ai préféré utiliser le couteau pour attaquer les autres plutôt que de me faire mal à moi-même. Ce qui explique qu'après avoir appris à me servir moi-même de ce couteau, j'ai appris à m'aimer. Je me suis toujours aimée. Et comme je le dis dans le livre, c'est ma vanité qui m'a sauvée. Mais après, il faut apprendre à vous dégager de ce cycle de violence. J'ai préféré le chemin que j'ai pris, qui n'est pas celui que la plupart des femmes prennent, qui se résume à devenir des victimes à jamais. Je suis devenue un bourreau, jusqu'à ce que j'arrive à me dégager de tout ça. C'est ce dont parle Paradoxia. C'est le voyage d'une personne qui décide après un trauma de devenir soit une victime, soit un bourreau, et qui jubile de devenir un vampire pour les autres, jusqu'à ce qu'elle réalise que son vide intérieur ne peut être comblé qu'en échappant à tout cela, en devenant vraiment elle-même.
C'est comme se venger, en fait. C'est comme se venger.
J'aurais préféré tuer mon père, mais j'ai préféré annihiler les images du père. Il s'agissait aussi de voir jusqu'où je pouvais aller et de ne plus être une victime. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de victimes d'abus, que ça a été à cause de la religion, de la pauvreté, parce qu'ils ne correspondaient pas aux normes de genre, à cause de leur sensibilité, pour leur étrangeté. Souvent, plus ces personnes sont inhibées et timides, plus elles sont attirées par ce que je fais. Si vous regardez les hommes avec lesquels j'ai travaillé, généralement, ils sont plutôt doux, sensibles. Thurston Moore, J.G. Thirlwell, Roland S. Howard, ce sont des hommes très sensibles, timides, et ils n'ont jamais eu peur de moi. En revanche, plus un mec est macho, plus je le terrifie.
Souvent, on dit aux femmes qu'elles sont des victimes. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
What I do is I blame the parents. I blame the mothers. And the same with this whole Me Too movement.
Moi, je blame les parents. Je blame les mères. Même chose avec ce mouvement Me Too. Si à 20 ans, vous ne savez toujours pas vous défendre, je suis désolée, mais vous avez un problème.
Okay. My abuse started at the age of 3. By 12, I knew how to defend myself. And it wasn't my mother.
J'ai été abusée à partir de l'âge de 3 ans. À 12 ans, je savais me défendre. Et ce n'est pas ma mère qui l'a appris, et je la blâme pour ça. On attend des hommes qu'ils soient des gros cons, des dominateurs, des violeurs, des pilleurs, des fous de guerre. On sait que ça ne va pas changer. Donc vous devez vous adapter votre comportement à cet état de fait. Et ça signifie que dès 6 ans, une fille devrait avoir des connaissances en autodéfense. Elle devrait savoir que si quelqu'un lui fait ou lui dit quelque chose qui lui déplaît, elle lui attrape les couilles et elle presse très fort. Je n'ai jamais rencontré un seul homme que je n'aurais pas été en capacité de tuer. Dès l'âge de 12 ans, personne ne pouvait jouer le prédateur avec moi parce que j'étais la prédatrice. Et j'étais une prédatrice, non pas parce que ma mère me l'avait appris, j'avais tout appris en me battant à coups de poing. Et le problème, c'est que personne n'a appris non plus à nos mères à se défendre elles-mêmes. Et personne n'a appris à leur père à ne pas être de gros connards.
Lydia Lunch, est-ce que vous pensez que c'est en train de changer en ce moment ?
Bien sûr, on doit écouter les voix des femmes, mais certaines femmes sont décapitées, vendues par des organismes d'exploitation sexuelle. Elles sont assassinées, on en fait des veuves, des réfugiés. Et ce n'est pas comparable avec le fait de se prendre une main au cul ou de se faire siffler dans la rue. Et le problème de MeToo, c'est que le mouvement a été coopté par des femmes qui choisissent de parler de petites délinquances, de certaines agressions sexuelles, alors qu'il y a des crimes beaucoup plus importants perpétrés contre les femmes dans le monde entier, et pas uniquement contre des femmes d'ailleurs, mais aussi contre des hommes. Le taux d'incarcération, le racisme, il y a des choses beaucoup plus importantes que de se faire agripper un nichon. Donc ce que je n'aime pas avec le mouvement MeToo, c'est que ça place tout au même niveau, et tout n'est pas au même niveau. Il y a des gradations différentes. Et si vous ne pouvez pas vous défendre quand quelqu'un vous siffle, vous insulte ou vous touche, tu sais quoi ? Agrippe-moi mon putain de nichon. Ils ne sont que des putains de nichons. Ils n'ont rien de si précieux. Et ils ne sont pas différents de tes bras. Qui vous a dit qu'ils étaient si précieux ? Et vous savez quoi ? Une bite n'est pas plus précieuse. Et croyez-moi, quelqu'un essaye de vous violer, tu tords sa bite ou ses couilles, c'est fini, tout simplement. Fin de l'histoire.
Quel genre de féministe êtes-vous ? Ou même êtes-vous féministe ?
Je suis une féministe, ce qui veut dire que je suis une humaniste. Je pense que les hommes et les femmes peuvent être tout aussi mauvais l'un comme l'autre dans une société où seuls les riches décident de tout. La plupart des hommes que je connais ne veulent même pas être associés à leur genre à cause de ce qu'ils représentent. Je ne blâme pas les victimes, je blâme les parents de ne pas avoir appris ou su. C'est un truc générationnel qui dure depuis des millénaires. Jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas compris. Saisis-lui le paquet et tords-le. Putain, on a appris quoi, les femmes ?
monsieur.
Merci beaucoup.
Au revoir le poisson géant.
On prend le taxi. Bonjour monsieur. Alors, où est-ce qu'on va?
On va chez Stephanie Hughes, une femme qui a fait beaucoup pour promouvoir mes premières apparitions à Paris.
On va à la librairie hors circuit.
She's been a friend for a very long time, and we're going to visit her.
C'est une amie depuis longtemps et on va visiter son extraordinaire boutique de DVD. Il y en a encore qui croient au DVD.
Paradoxia, la préface, c'est Hubert Selby Jr. Vous l'avez rencontré, Lydia Lunch, et il vous a appris à écrire.
I read Last Exit to Brooklyn at the age of 12. I don't even know how I got a copy of the book.
J'ai lu Last Exit to Brooklyn à l'âge de 12 ans. Je ne me souviens même pas comment j'ai récupéré une copie de ce livre. Et je crois que j'avais 20 ans et que je vivais à Los Angeles. J'ai rencontré Henry Rollins, qui n'avait jamais rencontré Hubert Selby. Je lui ai fait lire le livre et on est parti à sa recherche pour lui proposer de venir en tournée avec nous. Parce que avant, Henry Rollins, Exene Cervenka, Jewel, John Cooper Clarke, on ne payait pas des écrivains pour lire. Donc on a proposé à Hubert Selby, et il est venu avec nous en Europe, puis il a écrit la préface de Paradoxia.
Qu'est-ce qu'il vous a appris, Hubert Selby? Qu'est-ce qu'il vous a appris dans l'écriture?
What Hubert Selby, Genet, William Burroughs, who I think was a terrible writer, but a great personality, philosopher, and
Selby, Genet, Burroughs, je trouvais que c'était des très mauvais écrivains, mais des grandes personnalités, un philosophe et un modèle. Selby, ce vieil homosexuel pervers et drogué, ce qu'ils m'ont appris, c'est qu'il y avait un espace dans la littérature, une place pour une voix de femme, et que vous pouviez écrire des histoires. Ils étaient plus fictionnels. Paradoxia ne contient pas une ligne de fiction. Je n'écris pas de fiction. Ils faisaient de la réalité une fiction. Mais ils m'ont tous appris, tout spécialement Henry Miller et Hubert Selby, qu'il fallait écrire sur la réalité. Et aucune femme n'avait fait cela en dehors d'Anaïs Nin, qui est super, et quelques rares autres comme Violette Leduc, qui était super aussi. Mais il y avait un espace vacant dans la littérature explicite et radicale qu'aucune femme n'avait réussi à remplir à l'époque. Et depuis l'âge de 12 ans, je me disais que c'était à moi de le faire.
Vous écrivez, Lydia Lunch, vous écrivez comme vous parlez.
J'ai appris à écrire pour la scène, pour le spoken word. Donc mes écrits sont très directs, comme une conversation. Je ne corrige pas, j'écris par fragments. J'ai écrit Paradoxia en 3 mois. J'avais cette discipline d'écrire chaque jour, de 6h du matin à 9h, que ce soit une phrase ou 100 pages. Je n'écris pas de roman, c'est un mémoire. J'écris généralement soit des textes de chansons, des manifestes, du spoken word. C'est un mémoire, donc la technique que j'ai utilisée pour arriver à écrire quelque chose d'aussi long, ça a été de définir certains incidents de ma vie et de les envisager en termes d'images. Comme des cartes postales dont j'aurais rempli le verso. C'est comme ça que j'ai écrit Paradoxia. Mais tous les livres que j'ai écrits sont des anthologies, des compilations. Même mon livre de cuisine ont été écrits en 3 mois, point final. Je travaille comme ça, c'est tout.
Est-ce que vous pensez, Lydia, que le monde changera par les femmes et grâce aux femmes?
Je ne sais pas ce qu'il va falloir pour changer le monde. Je pense que c'est une des choses qui pourrait assez facilement changer, c'est que les gens arrêtent d'acheter plein de merde créée par l'ennemi. Si on revenait à un mode de vie plus communautaire, où chaque pays produisait ce dont la population a besoin, ou encore mieux, si de petites communautés produisaient ce dont ils ont besoin, de la nourriture et des vêtements, si on pouvait voir à quoi sert chaque dollar, pas la peine d'acheter de grandes marques, achetez des vêtements recyclés, faites des échanges avec vos amis. Si on arrivait à voir à quoi sert chaque dollar, ce serait une façon d'émasculer les corporations. Elles ne seraient pas si riches si on ne leur donnait pas notre argent. C'est très important. Je n'achète qu'une robe tous les 6 mois et je les recycle en les laissant en France.
On est en train de traverser la Seine. est sur les quais de Paris, merveilleux. Qu'est-ce que vous pensez de cette ville, Paris?
J'en ai rien à foutre. C'est juste une autre société capitaliste pleine de personnes riches et surtout de personnes pauvres. Les disparités de salaire sont énormes, les gens ne sont rien payés, les appartements sont chers, la nourriture est médiocre. La politique craint, c'est assez proche de l'Amérique. Ce que je comprends pas, c'est que les gens soient si fiers de leur ville. C'est un autre putain d'endroit où tu te retrouves piégé. Tu payes un loyer, ce qui veut dire que quand tu dors, tu payes un loyer. Tu payes trop pour tout. C'est partout pareil. Avant, Paris, c'était bien dans les années 20, Chicago dans les années 40, Memphis dans les années 50, je sais quoi dans les 60, et les années 70, New York, Londres et Los Angeles. Et Internet est arrivé et a fait qu'il n'y a plus de ville comme avant où les gens spéciaux pouvaient s'installer sans payer des prix délirants. Dans les années 70 à New York, mon appartement était à $70 par mois. Maintenant, vous ne pourriez même pas louer de toilettes à ce prix. C'était sale, dangereux, la ville était en faillite, il y avait la drogue, la violence, c'était complètement cramé. Il y avait une décision politique de mettre le feu à la ville, le Lower East Side et le Bronx. Il y a eu la panne d'électricité de 77 qui a causé des soulèvements, des pillages. Et tous les Afro-Américains intelligents en ont profité pour voler des équipements de DJ et commencer à faire du hip-hop. Merci. C'était une bonne raison pour manifester.
C'était quand même un super terrain de jeu quand vous faisiez Teenage Jesus et quand vous étiez aux États-Unis à ce moment-là. C'était quand même assez génial.
Oui, c'était génial. Tu veux aller vendre de la drogue au coin de la rue ou te prostituer auprès de vieux monsieur pour survivre? Tu veux vivre dans une ville où les services publics sont supprimés, te faire harceler tous les 10 mètres dans la rue, d'être partout dans un ghetto? Le président a dit à la ville d'aller se faire foutre. C'était génial. J'ai adoré. Je suis née dans un ghetto, dans un bidonville. C'était mon nouveau parc à bébés, un parc à cochons. J'ai adoré, mais bon, c'est moi. Si c'était le bon vieux temps, c'était le bon vieux temps horrible, mais j'ai vraiment aimé. Écoute, toute cette merde qui a existé à ce moment ne pourrait pas exister de nos jours, car personne ne pourrait se permettre de le faire maintenant.
Quels sont vos plus beaux souvenirs à New York, Lydia?
Leaving it. Arriving in 73 at 13, leaving a few days later.
En partir. Arriver en 73, partir quelques jours plus tard, revenir en 76 et y voir Suicide en concert. Mon meilleur souvenir, c'est de revenir du CBGB à 2h du matin et de croiser un mec qui me demande si je veux baiser avec son chien et de lui dire « Baise-le toi-même, pauvre connard ».
Pourquoi vous avez été attiré par le son de Suicide? Qu'est-ce qui vous a attiré chez eux?
Violence, psychodrama,
la violence, le psychodrame, le mépris pour le public, aucun lien avec aucun autre groupe connu, avoir l'honneur de pouvoir interpréter la musique d'Alan Vega sur scène, c'est aussi un devoir parce que la musique que je fais avec Mark Hurtado est plus agressive parce que nous avons une technologie plus puissante que celle de l'époque et j'ai compris le côté psychodramatique des chansons. Et donc je pense pouvoir leur apporter quelque chose voulu par Alan Vega, ce qui est génial.
Vous avez vu les New York Dolls aussi?
Oh yeah, the New York Dolls.
Oh oui, les New York Dolls. J'adore les mecs habillés en filles. Il faut comprendre que c'était en 1973 et qu'on avait le choix qu'entre les New York Dolls ou les Eagles. Alors j'ai choisi qui ? Les New York Dolls. Comme j'ai toujours eu l'impression d'être un homme habillé en femme, je me sens très à l'aise avec les hommes qui s'habillent en femme.
Est-ce que vous imaginez avoir un destin comme celui-ci ? Est-ce que vous avez imaginé votre vie comme ça ?
Oui, je savais que je ne pouvais rien faire d'autre. Je ne pensais pas pouvoir vivre aussi longtemps, mais je savais que je ne pouvais rien faire d'autre que ça. Je savais que j'étais têtue et que je le ferais, et même à cette époque, je m'en moquais de qui aimait ou pas. Je savais que ce que j'avais à dire était la vérité en rapport avec ma perception de la réalité. Il n'y avait à l'époque aucune autre voix proche de mon langage. En provenance d'un corps de femme, tout du moins, il y avait Mary Daly, qui était une théologienne. Il y avait Angela Davis, Wanda Coleman, Diamanda Galas est arrivée après moi. Et c'était une obligation. Je savais depuis l'âge de 12 ans que j'avais pour mission de faire ce que j'avais à faire. Je n'avais pas le choix. J'avais déjà été brûlée vive pour avoir fait tout cela, déjà dans plein de vie antérieure.
On arrive à la librairie hors circuit.
Oh, Stephanie! A woman very responsible for my success in Paris.
Une femme qui a contribué à mon succès à Paris.
I'm gonna smoke a cigarette first.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour. Do you want to smoke inside actually?
Yes.
Vous pouvez fumer à l'intérieur.
You wonder why I love this woman.
Mais alors c'est vraiment une librairie de DVD hein. Stéphanie, est-ce que vous avez les films de Lydia Lunch ? Les films dans lesquels elle a tourné ?
Je vois d'ici Mutante.
Féminisme, porno-punk.
Voilà, une affaire d'amis, encore une fois.
That's how you fucking do it.
Été 2005. Je traverse les États-Unis d'ouest en est, de Seattle à New York, en passant par Los Angeles et San Francisco. À la rencontre d'activistes, photographes, artistes, réalisatrices, travailleuses sexuelles et théoriciennes qui ont initié, dans les années 80, un mouvement révolutionnaire. Le féminisme pro-sexe, pro-pute, féminisme porno, SM ou lesbien.
L'écrivain Virginie Despentes nous plonge dans une quête initiatique troublante et captivante avec les mots ou les images de celles qui ont inspiré son travail. Dani Sprinkle, à Catherine Breillat ou Lydia Lunch, les propos de Mutante tranchent définitivement avec le discours ambiant qui voudrait que le sexe ne soit jamais aussi bien pratiqué que dans la chambre, que la dignité des femmes dépende toujours de leur sagesse et passivité, que les seuls thèmes féministes à débattre soient le port du voile et la violence de genre.
J'aime beaucoup Virginie, mais je suis simplement dans une partie du film, pas grand-chose.
C'est vrai que vous croyez encore au DVD, vous, Stéphanie, hein ? Malgré le téléchargement, vous continuez
oui,
à vendre des DVD.
Oui, 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 pour l'aspect patrimonial, en fait. C'est-à-dire que là, selon moi, c'est une mémoire, en fait, du cinéma. C'est-à-dire, si on s'en tient à ce qu'on trouve en téléchargement, en VOD, ou ce qui passe à la télévision, on va vers un entonnoir culturel. En tout cas, c'est mon opinion. Donc, il me semble qu'en proposant des choses rares, ça permet de maintenir une diversité culturelle. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a ici comme vos films préférés, les films que vous aimez ?
Martyrs, I told you. Martyrs, the French
film.
Martyrs. Je pense que c'est un de mes films préférés. C'est vraiment trois films en un. Ça montre la banalité du mal, l'obsession de la bourgeoisie et la vengeance. Je vois un de mes autres films préférés là, Santa Sangre de Jodorowsky, absolument fantastique. C'est vraiment l'endroit où il faut venir pour voir ces films uniques, artistiques, que vous ne trouverez nulle part ailleurs, probablement même pas sur le web. Ceux que vous devriez posséder. Tout mon travail est une sorte de psychothérapie.
Est-ce que vous êtes déjà allé voir un psy pour de vrai ?
I am a real psychotherapist.
Je suis une vraie psy.
Est-ce qu'on peut faire son auto-analyse? Est-ce que c'est bon de faire son auto-analyse?
Quand j'avais 12 ans, je voulais devenir conseillère maritale pour pouvoir faire du chantage au mari et à la femme, coucher avec eux et leur prendre de l'argent. Je l'ai plus ou moins fait dans la vraie vie. Mes performances sont des psychothérapies publiques. Je connais la situation. Ce qui me donne la force de parler comme je le fais, c'est de savoir que ma situation n'a jamais été unique et que je dois parler pour ceux qui ont des traumas similaires, que ce soit du fait de la pauvreté, de la persécution religieuse, de problèmes de genre, de maltraitance, de trauma, de la famille comme structure fasciste. Et surtout, comme je l'ai dit, je savais à 12 ans que je devais être la voix qui parle de tout ça. Et je savais que ma situation n'était pas la pire. Il y a des situations bien pires. Ma douleur n'est pas spéciale, aucune douleur n'est à part, ce sont des choses universelles. C'est pourquoi l'art est l'autoportrait de la douleur de la condition humaine. Et de ce fait, je trouve légitime qu'on me prenne pour une petite psychanalyste.
Est-ce que vous êtes une bonne sorcière ?
I'm a great bitch and a very good witch.
Je suis une super garce et je suis une très bonne sorcière. Tu sais pourquoi les sorcières sont représentées sur un balai? Ça, c'est une version de conte de fées avec des sorcières LED. Mais à la base, les sorcières créaient leur propre godemichet en bois et elles mettaient des substances psychoactives dessus. C'est pour ça que quand on disait que les sorcières volaient, en effet, elles étaient perchées grâce aux drogues psychoactives avec un godemichet en bois au bon endroit. Mais pour les enfants, ils les ont rendues LED sur un balai.
Nova.
Just one little itch. Papa Jango set the house on fire. Got so goddamn hot that he couldn't resist. Love is like a snake, likes to swallow its lover. It'll suck on your bones, it'll spit you away. Shoot you up with venom, give you nothing but trouble. Better trust the witch, now she's back on the game.
Et vous, quel genre de sorcière êtes-vous, Stéphanie?
Mais moi, je ne suis pas une sorcière.
Regardez.
Non, I'm not a witch, I'm a dragon.
Ah, vous êtes un dragon.
Time to go to see Paul Toupet, who keeps me alive, bunny boy.
Allons voir Paul Toupet, l'homme lapin.
Merci Stéphanie, au revoir.
Au revoir. Bonne suite, alors.
Allez, go! Hello.
Bien, how are you?
Bonjour.
Bonjour.
Aurélie.
Paul.
Radio Nova. Merci de nous recevoir, Paul Toupet. On est chez vous?
Voilà, là on est dans mon atelier.
Où est-ce qu'on peut trouver du vin ici?
Ça c'est votre atelier,
c'est mon atelier
avec
oui.
Des lapins partout.
Voilà.
C'est des lapins qui font peur.
Je trouve pas qu'ils font spécialement peur, mais non, ce sont des lapins autoportraits, on va dire.
C'est vous alors?
C'est à chaque fois, c'est moi.
Il y a donc des masques aussi?
Voilà, parce que je me cache derrière un masque de lapin.
Pourquoi vous vous cachez derrière des masques et des lapins?
Bah, parce que toujours un peu peur de ce monde, toujours un peu effrayé du monde. Un peu timide, un peu... J'aime bien me cacher derrière un masque.
Et Lydia, elle se cache derrière quel masque?
Sur scène, elle n'est pas la même. Et je pense qu'elle donne un côté plus agressif sur scène qu'elle ne l'est... Enfin, moi qui connais personnellement Lydia, je vois qu'elle n'est pas la même dans la vie du quotidien à comment elle se montre.
Pourquoi elle fait ça?
Enfin, c'est un autre personnage, enfin je sais pas, c'est... on est plusieurs, oui. Je pense que Lydia est plusieurs.
Lydia, est-ce que vous vous cachez derrière un masque?
Absolutely fucking not. What would I hide? My job is to show everything.
Absolument pas. Qu'est-ce que j'ai à cacher? Mon boulot, c'est de tout montrer.
The same way that all of these are unique.
La même façon que toutes ces pièces sont uniques et montrent des choses différentes.
Every one of these creatures,
chacune de ces créatures et de ces créations montre une émotion différente. Du coup, il doit en créer de nombreuses. Je n'ai que moi-même dans ma multitude de personnalités. Je ne peux rien cacher, je suis simplement une schizophrène. Donc ce que vous voyez à un moment est peut-être différent selon les moments, mais c'est toujours la même et seule personne. Ou comme j'aime dire, un hôtel dans lequel vivent de nombreux monstres. Bienvenue dans mon monde.
Fantastic. What is the technique of this?
C'est quoi? Quelle est la technique?
C'est des photos lenticulaires. Lenticulaire, c'est le procédé avec des plaques de plastique avec des fines bandes. Quand tu bouges l'image, l'image bouge.
Vous avez toujours des choses qui, ces fils qui pendent et ouais. Des fois qui sortent de la bouche comme des boyaux un peu.
Alors oui,
c'est des cheveux ou je sais pas.
Ça, c'est des influences que j'avais vues sur un masque péruvien avec des tresses qui m'avaient marqué quand j'étais petit. Ou même
l'Amérique latine.
Oui, voilà, j'avais toutes ces influences qui étaient très présentes dans mes anciens travaux. Et maintenant, c'est de plus en plus blanc, de plus en plus pur.
Pourquoi il y a des lapins? Pourquoi ces lapins?
C'était mon totem quand j'étais petit. Je défends le lapin. Je trouve que c'est un animal entre le mignon, avoir peur, et de le mettre dans des situations où, justement, c'est comme vous disiez tout à l'heure, que mes sculptures font peur, alors que je trouve qu'elles ne font pas peur, mais d'utiliser des images d'un lapin, d'utiliser des enfants, les gens se posent des questions pourquoi ils se retrouvent à avoir un peu peur alors qu'il n'y a rien de... Il y a rien. Tout est mignon, enfin.
C'est des lapins enfants.
Oui.
C'est des lapros.
Oui.
Lydia parle des drames de l'enfance. Est-ce que c'est ça aussi que vous voulez montrer?
Non. Mon enfance a été... Enfin, la mienne, personnellement. Non, elle a été très bien.
Vous n'avez pas eu la même enfance que Lydia Lunch?
Non, du tout.
Vous avez eu une enfance préservée, voilà, par un papa, maman, de l'amour.
Exactement. Des parents qui m'ont soutenu, qui me soutiennent toujours. Donc, là-dessus...
Vous êtes à l'opposé là-dessus.
Oui.
Est-ce que, alors, peut-être pas reconnaissante, mais est-ce que vous devez quelque chose de positif à vos parents? Est-ce que finalement, il y a quelque chose de bon à ressortir de tout ça?
Oui. My entire fucking career, honey.
Toute ma putain de carrière, chérie.
My father was,
Mon père faisait du porte-à-porte. Il a eu plein de jobs différents.
He always had jobs, but always different. He didn't give
il n'en avait
shit
rien à foutre
thought.
De ce que pensaient les autres. Tout le monde l'aimait, il avait beaucoup de charisme. En gros, c'est moi. Et les enfants que j'ai agressés n'étaient pas les miens.
Alors, il y a une question que je ne vous ai pas posée. Pourquoi vous vous appelez Lydia Lunch?
Because your real name is... food from my hungry friends. So they started calling me Lydia Lunch. That's quite simple.
Parce que je volais le déjeuner et je l'amenais à mes amis qui étaient pauvres et qui avaient faim. Alors, ils m'ont surnommée Lydia Lunch.
We also made a short video together for a book trailer of mine. That Elise Passavant, a French filmmaker, made, and a very beautiful video which is online.
On a aussi fait un petit film ensemble pour la bande-annonce d'un de mes livres. C'est le premier projet que j'ai réalisé avec Elise Passavant. Elle fait des super vidéos.
Transformed into a healing tonic, a sexual salvation, a vacation from the devastation.
C'est vous là sur la vidéo?
Oui, c'est moi avec Lydia. C'est moi et Lydia dans une chambre d'hôtel et elle lit son livre tout en me caressant.
À la dérive, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dimanche prochain. Le nouvel album de Lydia Lunch avec Big Sexy Noise, c'est son live en Italie qui s'appelle Live in Italy. Et elle sera en concert à Paris avec Marc Hurtado pour un hommage au groupe Suicide à l'église Saint-Merry dans le cadre du super festival Sonic Protest. C'est le 4 avril à 20h. À la dérive, c'est Aurélie Sfez au micro, Bertrand Chompton aux manettes et en podcast sur nova.fr. Merci à Adèle, Raphaël, Sébastien, Malik et Adrien. À dimanche prochain et d'ici là, bonne balade à tous sur Nova.
Oh, yeah.